voix nue. Cette semaine, nous réécoutons la rencontre en 2006 entre Caroline Brouet et Françoise Héritier, qui vient de nous quitter. Ce soir, l'anthropologue dans la ville.
Alors Françoise Héritier, nous nous sommes quittés hier sur cette idée de la maîtrise de la fécondité comme formidable outil de libération des femmes, et sur cette interrogation, est-ce que c'est la première étape d'une marche vers l'égalité dans la différence? On n'a pas répondu à cette question parce que c'est une question qui est encore en suspens. J'aimerais qu'aujourd'hui, après avoir abordé cette grande question des rapports entre féminin et masculin, on croise, d'ailleurs c'est un thème qu'on croisera à nouveau, je pense aujourd'hui, puisque c'est un sujet inépuisable, mais j'aimerais que pour cette dernière émission, on aborde les questions de sociétés actuelles qui vous préoccupent et qui conduisent la citoyenne que vous êtes à prendre position. C'est pourquoi j'ai intitulé cette dernière rencontre « L'anthropologue dans la cité » en écho au titre que vous-même avez choisi de donner à l'un de vos séminaires au Collège de France. Vous disiez, je crois au début de ces entretiens, vous disiez ce qui se passait dans notre monde moderne ne m'intéressait pas vraiment. Vous disiez ça dans la première ou dans la deuxième émission. Et pourtant, nombre de sujets actuels vous intéressent, Françoise Héritier.
Absolument. C'est-à-dire, je vous parlais de mon enfance.
Et vous parlez du choix de l'étude, de l'histoire-géographie, parce que vous aviez un désir d'ailleurs et d'autrefois.
Et puis c'est ainsi que j'ai choisi ensuite l'ethnologie.
C'est ça.
Et c'est ainsi que je me le suis expliqué par une espèce de manque de goût pour les événements contemporains ou les événements récents. La révolution d'octobre, la guerre de 14, la guerre de 39-40, le génocide des Juifs, enfin, tous ces événements-là étaient des événements suffisamment perturbateurs et je n'avais pas envie d'y travailler. Et puis il faut dire aussi, je disais que c'était peut-être à cause de l'expérience de la guerre. Je suis une enfant qui a connu l'exode, qui a connu les bombardements, qui a vu des morts. Ce n'est pas Brigitte Fossé, mais c'était un peu ça. Bref, je ne sais pas. Donc je n'aimais pas. Et c'est progressivement que je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible d'esquiver. Non seulement l'ethnologie du monde contemporain, ce que font brillamment un certain nombre de mes collègues, comme Marc Auger ou Marc Abeles ou bien d'autres, mais que de l'implication de nos raisonnements, de nos méthodes de travail et notre implication politique aussi dans des problèmes contemporains. Alors j'ai d'abord été amenée par les circonstances, j'allais dire presque obligée. C'est en 89 notamment que le président de la République de l'époque, c'est-à-dire François Mitterrand, sur la suggestion du professeur de médecine Hugo, a créé trois organismes contre le sida. Une agence nationale de recherche, une agence de lutte contre le sida, et puis surtout le Conseil national du sida, et on m'a demandé d'en prendre la présidence. Ce qui m'a beaucoup m'a fait réfléchir, parce que c'était assez lourd de créer ce genre d'organisme, mais en même temps je me rendais compte immédiatement que, compte tenu des caractéristiques particulières du sida et de sa transmission du virus du HIV et de sa transmission, c'est-à-dire par les humeurs du corps, pas la salive, mais le sang, le lait et le sperme, ça rencontrait d'une certaine façon des problématiques sur lesquelles je travaillais, puisque je faisais un cours sur l'anthropologie symbolique du corps. Donc déjà, cette première expérience, qui a duré 8 ans, m'a frotté, si je puis dire, avec le monde politique, parce que j'ai dû rencontrer des politiques, évidemment, pour traiter d'un certain nombre de questions, et avec ces questions de société, qui sont nos questions contemporaines, mais en les voyant, d'une certaine manière, en apportant un éclairage anthropologique. J'ai continué à le faire dans des organismes comme le Comité consultatif national d'éthique, ou bien même très peu de temps, 2 ans, au Conseil économique et social, d'apporter un autre éclairage que celui que l'on voit d'habitude. Et je pense que c'est une chose absolument nécessaire d'essayer d'agir sur le politique. C'est nécessaire et extrêmement difficile, parce que on ne peut pas attendre des hommes et des femmes politiques qu'ils connaissent, qu'ils aient des connaissances diverses, comme les savants de diverses disciplines, mais surtout, ils participent eux-mêmes des systèmes de représentation que nous avons tous en partage.
Mais est-ce que certains de vos collègues ne vous ont pas reproché, Françoise Héritier, de sortir de votre rôle ? Je me souviens d'un article dans La Croix que vous avez écrit en 1998, oui, et qui s'intitulait « Aucune société n'admet de parenté homosexuelle », qui a été accueilli avec moult critiques, parce que c'était au moment du débat sur le mariage gay, sur le PACS,
absolument,
etc.
Mais on se trompait de cible, parce que moi, j'étais tout à fait pour le PACS et même pour le mariage homosexuel. Sexuelle, la question à laquelle je répondais était différente. Y a-t-il des sociétés qui l'ont ? Mais non, il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer.
Vous ne portez pas de jugement en tant que.
Je ne portais pas
ça.
De jugement négatif, je disais non.
En tout cas négatif, oui.
Je ne portais pas de jugement négatif.
Vous constatiez
qu'il n'y avait pas
si
de
société. Si on veut changer, il faut innover.
Mais... Il faut innover. Si on veut changer, c'est une innovation, et c'est une innovation qui est bienvenue, absolument bienvenue, mais c'est une innovation. Il n'y a pas de sociétés qui ont été fondées en donnant le même poids à des unions homosexuelles et à des unions hétérosexuelles. C'est une simple constatation que font les historiens ou les anthropologues. Bon, là encore avec des nuances, parce que l'homosexualité peut être reconnue, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est considérée comme légale au même titre que le mariage. Cela dit, ça nous amène à critiquer la notion de mariage, parce que nous l'entendons comme une union entre deux individus. Mais c'est venu très progressivement. Simplement, maintenant, ça a pris la place dans nos esprits. Mais il reste qu'au départ, le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est une union entre deux groupes qui s'aident mutuellement partenaires. Disons, un groupe qui s'aide une femme à un autre groupe, et réciproquement, parce que généralement, il y a des échanges. Bon, des échanges. Donc, c'est ça, le mariage, qui est une suite logique de la prohibition de l'inceste, qui interdit aux hommes de toucher leur fille, leur soeur, etc., et les oblige à les donner à des hommes d'autres groupes dont ils recevront en échange les sœurs et les filles. Ça, c'est l'exogamie. Et puis, là, ce que je cite, c'est Lévi-Strauss, donc, qui a mis au point ce schéma, prohibition de l'inceste, exogamie. Pour que ça marche, il a fallu une institution qui donnait des formes légales à cette union entre deux groupes, et qui d'ailleurs rendait dépendants les mariages échangistes. Si un homme et sa sœur épousent un homme et une sœur d'un autre groupe, si un des mariages saute, le deuxième saute également. Bon, donc c'est des gages de validité, vous voyez, des gages de stabilité. Et puis ensuite, la répartition sexuelle des tâches. Et c'est à ça que j'ajoute, moi, la valence différentielle des sexes, puisque ce sont des femmes qui sont échangées et non
par
pas
des hommes.
Par des hommes, et non pas, ça ne marche pas dans les deux sens. Le mariage est donc une affaire entre deux groupes. Et nous en avons encore des traces dans notre société, car à ma connaissance, c'est le seul contrat civil unissant deux individus, pensant à tous les contrats d'affaires qui peuvent exister, qui se passe en présence de la famille, des deux côtés, des voisins, des amis, qui fait l'objet de fêtes, qui fait l'objet de bombances, enfin bon, et qui reste... Et ces fêtes et ces bombances ayant pour fonction de laisser une trace dans le souvenir des gens. On se souvient du mariage d'un tel et d'une telle. C'est
comme du plus beau jour de sa vie, en plus.
En plus. Et c'est l'union de deux familles, c'est une trace encore. Mais il y avait d'autres manières d'échange qui existaient. Et notamment, je pense, les systèmes d'otages ou les placements d'enfants, etc. Mais les systèmes d'otages étaient des systèmes qui ont fonctionné jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Pour garantir la paix entre deux groupes, on se donnait des otages. On voit souvent cela dans la tragédie grecque, par exemple. Mais les otages n'étaient pas nécessairement unis sexuellement et matrimonialement à des membres du groupe dans lesquels ils étaient remis. Mais ça pouvait être des garçons comme des filles qu'on pouvait échanger dans les deux groupes.
Bon. Vous voyez comme vous me ramenez dans le passé alors que je voulais qu'on parle du présent.
Dans le passé, mais c'est pour expliquer que dans le présent, on pourrait très bien imaginer un nouveau modèle qui serait un modèle où l'échange entre deux groupes ne serait pas l'échange d'un homme et d'une femme qui peuvent se marier et procréer, et c'est cela son avantage. parce qu'il donne des descendants aux deux groupes, mais ça pourrait être l'échange entre deux groupes de deux personnes de même sexe qui ne peuvent pas procréer de façon naturelle, mais à qui on peut donner les moyens de procréer de façon artificielle, puisque maintenant on en a les moyens. Donc je voulais dire que l'institution même du mariage est grosse dans ses dépenses. Dès le départ, de possibilités d'échange qui ne sont pas seulement l'échange d'un homme et d'une femme qui, lui, a cet avantage considérable de faire automatiquement, sauf cas de stérilité, des petits. Donc le mariage homosexuel en soi ne me choque absolument pas. Mais je sais que j'avais été tout à fait critiquée pour cela, et également pour avoir signé un texte, j'aurais certainement mieux fait de ne pas le faire, mais je l'ai signé pour un paragraphe. C'était à une période où Madame Guigou, qui préparait le premier projet de Pax, ne tenait pas à ce que le Pax passe dans l'esprit des gens pour un mariage au rabais. Donc elle voulait le dédouaner de son aspect sexuel. Et pour le dédouaner de son aspect sexuel, elle voulait l'ouvrir aux frères et aux sœurs, et même aux membres des communautés religieuses. Et à ce moment-là, la réponse a été, mais si on l'ouvre aux frères et aux sœurs, il n'y a aucune raison que ce soit entre deux d'entre eux seulement. S'ils sont plusieurs, on doit pouvoir le faire à plusieurs. Et donc, ça voulait dire que de manière insidieuse, à travers une loi sur le Pax, on remettait en cause deux des fondements de notre société qu'on peut peut-être mettre en cause, mais qui mériteraient un vrai débat, la prohibition de l'inceste et la monogamie. Parce qu'en fait, pour le public, le Pax, c'est l'aspect sexuel qui prime. Donc si on l'ouvrait aux frères et aux sœurs, ça voulait dire qu'on pouvait imaginer très bien que la prohibition de l'inceste saute dans notre société. Et si on en mettait plusieurs, frères et sœurs, il n'y avait aucune raison de leur réserver aux frères et aux sœurs. Et on pouvait à ce moment-là passer à un Pax multiple pour des partenaires sexuels qui voudraient se paxer. Donc effectivement, j'étais contre cette formule. Ça ne veut pas dire que j'étais contre la formule du Pax.
Voix nue. Caroline Brouet rencontrait Françoise Héritier en 2006.
Vous permettez, Françoise Héritier, de franchir un pas supplémentaire et de vous poser une question plus générale. Est-ce que les structures de la parenté que vous avez décrites tout au long de vos travaux et qui sont révélées par l'anthropologie sociale, est-ce que ces structures-là résistent au bouleversement de la famille et des relations hommes-femmes qu'on observe depuis, quoi, une trentaine d'années?
C'est sûr qu'elles résistent. Parce que c'est, dans certains cas, je vous l'ai dit, c'est inscrit même dans le langage de la parenté. Ce n'est pas notre cas dans notre système à nous de parenté qui ne fait pas ces différences que j'ai citées brièvement. Mais il n'y a rien de plus difficile à faire changer que des systèmes de représentation que nous reproduisons sans même y penser auprès de nos enfants, que ce soit dans l'éducation qui leur est donnée par la famille ou l'éducation qui leur est donnée à l'école ou plus globalement encore celle qui leur est fournie par la rue et par les moyens de communication du genre télévision ou bande dessinée. Et or, il est vrai que si je pense réellement à la manière, je ne dirais pas que c'est le système de parenté tout seul, c'est l'ensemble des représentations qui ont été bâties sur ce socle dur des bases incontournables dont j'ai parlé hier, je crois, et qui sont si difficiles à éliminer. Nous les reproduisons sans y penser. Par exemple, je prends un exemple dans la société sur laquelle je travaille, les Samo du Burkina Faso. Eh bien, les femmes disent que il faut allaiter tout de suite le petit garçon qui pleure parce que il a le cœur rouge, c'est-à-dire qu'il peut devenir facilement furieux, qu'il est impatient et que la fureur le met également en danger. Il pourrait en mourir. Donc, un petit garçon qui pleure, immédiatement, il a le sein. Alors qu'une petite fille, elle peut attendre. On dit qu'il faut lui apprendre la patience parce que toute sa vie, elle devra être patiente. Donc, on lui fait attendre le sein. On fait donc ainsi des hommes pour qui il est naturel d'obtenir immédiatement ce qu'ils convoitent et des fillettes pour qui il est naturel d'attendre patiemment qu'on veuille bien leur accorder ce dont elles pourraient avoir envie ou qu'on veuille bien ne pas les maltraiter. Bon, c'est quand même.
Je crois qu'on pourrait trouver des exemples similaires dans des populations.
Absolument,
plus
mais c'est pour cela. Alors là,
je parle
des Samo, mais parlons d'une expérience de psychologie tout à fait ordinaire menée aux États-Unis auprès de deux groupes d'étudiants à qui on présente la photo du même bébé d'une huitaine de jours et un bébé hurleur, hein, les poings crispés, la bouche grande ouverte. Et au premier groupe, on dit « c'est un petit garçon, pourquoi pleure-t-il » Et au deuxième groupe, on dit « c'est une petite fille, pourquoi pleure-t-elle » Et du petit garçon, on dira « ah, il est en colère, hein, quelque chose lui a déplu, c'est un vrai petit mal. » Et puis de la petite fille, on dira « quelque chose lui a fait peur, la pauvre mignonne, il faut la cajoler. »
Ah oui, donc c'est vraiment ancré tellement profondément que les avancées de la contraception ne suffiront pas sans doute
non,
à renverser.
Il faut changer les mentalités et c'est cela qu'il est difficile de faire comprendre parce que même à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes filles qui bénéficient de la contraception, qui bénéficient de tous les avantages qui ont été gagnés par leur mère, y compris la parité politique, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale, qui n'est pas rentrée dans les mœurs, mais enfin qui a été votée, enfin toutes ces lois qui leur ont donné la liberté, c'est assez récent quand même, le vote des femmes c'est 45, enfin vous citiez les dates hier des lois sur la contraception et sur l'avortement, et la possibilité pour une femme de travailler sans l'autorisation de son mari c'est très récent aussi, enfin il y a comme ça toute une série d'avantages qui paraissent maintenant absolument naturels, et beaucoup de jeunes filles prennent la contraception davantage comme une contrainte que comme une liberté, et elles se demandent ce qui reste à faire, elles croient que tout est gagné, or en fait les choses sont en place sur le plan légal et institutionnel, mais le plus gros reste à faire. Et le plus gros reste à faire, et il demande qu'on en prenne conscience. Tant qu'on n'en aura pas pris conscience en haut lieu, ça ne changera pas. Qu'on en prenne conscience et que tous, individuellement, on y travaille.
Hommes comme femmes.
Hommes et femmes. Hommes comme femmes, on y travaille. Et l'un des premiers points, me semble-t-il, c'est par l'éducation. Mais pour changer l'éducation, il faut que changer les éducateurs aussi, que les éducateurs aient changé. Moi, il me semble, ça va paraître certainement naïf, et pourtant c'est, je crois, extrêmement important, que l'une des choses principales qu'il faudrait obtenir extrêmement tôt, c'est une égalité de traitement. Bon, pas ces différences que je viens de raconter, qui paraissent drôlatiques, mais qui ne sont pas drôles du tout, mais quelque chose qui passe, qui soit fait de telle manière que entre deux individus, quel que soit leur sexe, quel que soit leur type de rapport, parent-enfant ou bien professeur-élève, patron-employé, mais aussi entre pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des enfants de la même génération, etc., ou des gens de même statut, que l'on apprenne une écoute respectueuse de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne soit pas possible de traiter l'autre systématiquement par le mépris, l'indifférence, l'obligation d'obéissance, etc. Donc, l'écoute respectueuse de l'autre, c'est quelque chose dont, quand on s'y applique dans la vie quotidienne, dont on se rend compte qu'elle vous apporte véritablement des bienfaits et des plaisirs.
Ça pourrait, Françoise Héritier, apporter des bienfaits et des plaisirs dans les rapports échangés, peut-être les rapports hommes-femmes. Ça pourrait peut-être aussi changer les rapports de violence qui existent dans le monde et sur lesquels vous avez également travaillé, puisque vous avez consacré 2 volumes collectifs hein, à cette question de la violence dans le monde.
Oui, c'est-à-dire, je pense que oui, bien sûr, mais encore une fois, il faudra pour cela énormément de temps. Bien sûr, les institutions internationales sont là pour essayer de s'écouter mutuellement, mais je ne suis pas sûre que ces lieux de parole soient des lieux où l'on s'écoute, où on écoute vraiment les arguments des autres. Donc, c'est ne pas gagner non plus au niveau international. Mais la violence telle qu'on l'observe me semble être violence ethnique, violence entre hommes et femmes, violence des banlieues, enfin, des pauvres contre leur état dans lequel ils sont réduits, qui parle justement du manque de respect, du manque d'écoute. Il faut bien comprendre qu'elle est fondée sur un certain nombre de constantes qui sont là aussi des invariants et que nous partageons pour beaucoup avec le monde animal. Et si je les prends en partant, disons, du plus simple au plus complexe, certainement en oubliant quelques-uns au passage, je dirais que chaque individu éprouve le besoin d'avoir de se nourrir à sa faim, donc soi-même et puis ses proches. Bon, chaque individu ressent le besoin de se reposer en ayant confiance. Donc ça implique l'idée qu'on peut dormir tranquille avec ses proches, avec ses consanguins, mais qu'on n'est pas nécessairement tranquille avec les autres, ceux qui sont peuvent être des ennemis potentiels. Bon, il y a l'idée qu'un individu veut être semblable, la conformité, veut être semblable à ceux de son groupe.
Où on retrouve voit, l'identique et le différent.
Oui, où on le voit très très fort dans les bandes de jeunes, notamment dès l'école, les enfants veulent tous avoir les mêmes blousons, les mêmes chaussures, etc. L'idée d'être semblable et qui se manifeste par dans des sociétés, par les systèmes de scarification, le vêtement, l'habillement, mais aussi les marques corporelles que l'on peut porter et qui font que vous êtes identifiable comme appartenant à tel groupe. Avoir aussi la même chose que les autres, c'est extrêmement important. Il y a le besoin de protéger et d'être protégé, mais qui peut se transformer très très rapidement en autocratie. Bon, c'est ce rapport de puissance des parents ou des aînés exercé sur les enfants et les cadets. Mais il y a le besoin de justice, dont on pourrait penser qu'il est strictement humain et dont on s'aperçoit maintenant qu'on le trouve dans le monde animal en travaillant. Évidemment, ce sont des expériences qui sont menées en laboratoire sur des singes, mais qu'on n'a pas observé dans la nature, mais qui sont cependant parlantes, des petits singes colobes à qui on demande de faire une tâche et on les récompense de la même manière quand ils l'ont réussi. Et puis un jour, on change les règles du jeu et on ne récompense pas nécessairement ceux qui ont réussi et on peut donner la récompense à ceux qui ont raté. Eh bien, ils ne veulent plus jouer. Mais je voudrais juste dire une chose pour terminer sur la question de la violence. J'ai parlé de ces invariants que j'ai cités, et j'ai dit, et c'est dans les interstices de ces différents points qui doivent s'articuler les uns aux autres, que s'ils ne sont pas réglés par la loi, la violence peut s'insérer. Autrement, ces besoins invariants, ceux-là, ils sont normaux, mais c'est la manipulation que l'on peut en faire dans les interstices qui, elle, induit à la violence.
Alors, Françoise Zeriti, nous arrivons au terme de ces entretiens. J'aimerais pour finir que vous me commentiez 2 images qui trônent dans votre salon.
Oui.
La première, c'est la photo de classe du Collège de France, 2-3 ans, je crois, après votre arrivée en 1982. Photo où vous apparaissez comme la seule femme. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 3 femmes au Collège de France actuellement, mais qu'en tout, vous avez été 6. Sur cette photo, vous apparaissez au premier plan, vous êtes la seule en robe, parce que les autres sont tous en costard-cravate. Et en la regardant, on ne peut s'empêcher de penser à ce que vous avez écrit sur la prédominance, aujourd'hui encore, du modèle archaïque de la domination masculine. Peut-être, comment vous avez été accueillie dans cette institution essentiellement masculine, Françoise Héritier?
Je ne pense pas avoir eu de gros problèmes.
On vous a jamais fait sentir que vous étiez une femme?
Non,
donc différente.
On ne m'a jamais fait sentir que j'étais une femme. Et même plus curieusement, le fait d'être la seule femme dans un monde exclusivement masculin induisait chez moi quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si je me ferai comprendre, mais imaginez que vous êtes dans un monde où il n'y a qu'un seul sexe. Vous ne voyez que des hommes. Eux tous voient que vous êtes une femme. Ils finissent par l'oublier. C'est une collègue, enfin bon, qui parle le même langage qu'eux. Mais moi, quand je ne voyais que des hommes autour de moi, c'était tout juste si je ne me voyais pas comme étant un homme parmi des hommes. Donc, non pas que j'escamotais ma féminité, mais ma façon de m'exprimer, de parler, de prendre la parole était la même que la leur. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de différences significatives à ce niveau-là. Et il arrivait parfois que dans des conversations, dans des rencontres informelles que nous faisions pour discuter de projets de nouvelles chaires, il arrivait parfois que certains professeurs oubliaient que j'étais une femme et pouvaient faire des commentaires sur des possibles femmes qu'on aurait pu appeler, parce qu'on n'est pas candidat au collège, on vient vous chercher, sur des femmes qui avaient des mérites et qu'on aurait pu appeler, faisaient des commentaires qu'ils n'auraient pas fait s'ils s'étaient rappelés que j'étais là en tant que femme. En tant que femme. Enfin, donc ça, c'est un détail.
Et la deuxième image que j'aimerais que vous nous commentiez, en un mot juste, c'est ce nu féminin qui est accroché au mur de votre salon. D'où vient-il ?
Alors, ce nu féminin qui est fait par un peintre australien qui vit en France depuis fort longtemps, qui s'appelle Michael Basto, et il m'a été offert par tous mes collègues et collaborateurs du laboratoire d'anthropologie sociale lorsque j'ai pris ma retraite officiellement.
Bel hommage, François Héritier.
Fin de cette rencontre de Caroline Brouet avec Françoise Héritier, enregistrée en 2006. À Voix Nue, réalisation Massimo Bellini, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.